terrain dans les dalles, pour éventuellement ils pouvaient être stockés en fonction de différentes densités entre le magma et les roches environnantes. Et puis, s'ils passaient dans un conduit qui pouvait donner lieu à deux types, enfin à trois types d'évolution, un dégazage passif ou sous forme d'explosion peu violente, de type stromboïenne, si le liquide était peu visqueux et permettait à la phase gazeuse de s'échapper. Des éruptions violentes de type explosif lorsque le gaz était maintenu prisonnier sous pression et qu'il y avait aussi ce phénomène de fragmentation. Et parfois la formation de groupes lorsque la phase gazeuse pouvait quitter l'écoulement par les bords du conduit. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder la dernière partie, la partie atmosphérique du système. On ne va pas regarder la façon dont les globes se mettent en place, on n'a pas le temps de tout faire. On va voir plutôt la dynamique des panaches volcaniques atmosphériques. Et on va voir deux sujets. Tout d'abord, la stabilité de ces éruptions pliniennes et les mécanismes physiques qui peuvent expliquer la formation des écoulements pyroclastiques. Premier temps, et puis dans un deuxième temps, on essaiera de voir comment on peut prédire la hauteur d'étalement de l'ombrelle. D'accord ? Donc deux aspects de cette dynamique. Donc on va commencer par la génération des écoulements pyroclastiques. Qu'est-ce qui fait qu'une colonne volcanique peut se déstabiliser et s'effondrer pour produire des écoulements pyroclastiques qui ont détruit, donc par exemple, Pompéi ou Fulano. Pour cela, donc, on a besoin de regarder le système naturel avec, dans le cadre dans un cadre physique. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'un panache va remonter vers la haute atmosphère ou au contraire s'effondrer sous son propre poids. Eh bien, le rôle ici, c'est comme d'habitude celui de la flottabilité. Donc, vous souvenez la différence entre le poids vers le bas et la poussée d'archimède vers le haut. Le type d'évolution, en fonction de la teneur en gaz dans le système turbulent. Si vous avez peu de gaz et beaucoup de solide, la densité du jet volcanique est plus grande que celle de l'atmosphère. Donc vous allez vous effondrer parce que la flottabilité est négative. Inversement, si vous rajoutez du gaz dans le système, vous allez pouvoir l'alléger. La densité du jet va devenir plus faible que celle de l'atmosphère. Vous allez générer une colonne pliniennes avec une flottabilité positive. Donc, ce qui fait changer la flottabilité, c'est la fraction de gaz dans le système. Et qu'est-ce qui fait changer la fraction de gaz dans le système? C'est l'entraînement turbulent par les volutes au bord du panache qui permet d'ingérer de l'air ambiant. Air ambiant qui va être chauffé au contact des particules et qui va devenir plus léger que l'air. On peut faire des modèles donc pour ce type de comportement. Je vais vous proposer les modèles les plus simples, qui sont des modèles à une dimension, où la structure turbulente qui est celle d'un panache volcanique va être représentée par une structure moyenne, où on peut définir le panache à toute hauteur comme un écoulement de taille grand R, avec une vitesse verticale W et une certaine masse volumique. On va utiliser uniquement trois paramètres moyens qui seront la taille, la vitesse et la densité à chaque fois. Et ce que l'on va regarder, c'est la façon dont on peut modéliser l'entraînement de l'air au bord du panache et la façon dont l'air chauffé au contact des pyroclastes se dilate pour alléger le panache. Ce formalisme-là, c'est un formalisme assez ancien qui fait des années 50 et 60, mais qui reste tout à fait valable pour une description robuste des écoulements. Alors, quelles sont les équations qui vont être utilisées dans ce domaine? On va utiliser les équations de conservation du fluide. La dynamique des fluides, ici dans le cas turbulent, et on va s'intéresser à différents flux. Le premier flux dont on a parlé une dizaine de fois depuis le début du cours, c'est bien sûr le flux de masse. Donc, qu'est-ce que c'est le flux de masse? Vous avez une vitesse qui transporte les quantités dans les mouvements. Comme vous êtes en train de regarder un flux de masse, quelle est la quantité qui va être transportée? C'est la masse volumique, rho. Vous êtes dans un fluide, donc on ne regarde pas directement la masse, on regarde la masse par unité de volume, rho. Et puis, c'est transporté à travers une surface pi r carré. D'accord? Cela, c'est exactement le flux de masse qu'on a écrit dans le conduit, hier. Et qu'est-ce qu'on a dit sur Freeman dans le conduit hier? On a dit qu'il était soit constant, soit qu'il diminuait comme la quantité de gaz qui était perdue sur les côtés. Qu'est-ce qui va se passer ici dans le cas de notre panache volcanique? Est-ce qu'on perd du gaz sur le côté? Non. Inversement, on va entraîner du gaz par les bords du panache, par la turbulence. Ce que l'on formalise de cette façon-ci, on considère que le gaz est entraîné à la périphérie du panache, que ce gaz a une atmosphère froide, qui est celle de l'atmosphère, et que le taux d'entraînement, alors vous voyez, c'est A W, l'échelle de vitesse du panache, et c'est lambda W. Ça, c'est la théorie de Taylor de l'entraînement turbulent, qui vous dit que la quantité de gaz qui est entraînée, c'est grosso modo une fraction, c'est donné par une fraction de la vitesse verticale. Vous avez une seule échelle de vitesse dans votre problème, c'est la vitesse verticale. Et bien, il y a une fraction de cette vitesse qui est utilisée pour faire tourner les tourbillons et faire entraîner et entraîner le gaz. Cette constante d'entraînement, lambda, vaut à peu près 0,1. Elle est très connue en physique, elle est mesurée depuis les années 50, en laboratoire, pour les panaches industriels, etc. Elle est de l'ordre de 0,1. Hein. Vous pouvez imaginer, donc, quelque part, il y a 10% de l'énergie cinétique dans votre système qui est utilisée pour entraîner la rotation. Donc, ce que j'ai pris simplement ici, c'est que la variation du flux masse au cours de la montée Z du panache, c'est le taux d'entraînement, la quantité entraînée, c'est l'air ambiant, et c'est entraîné à travers la périphérie du panache de Pierre. C'est clair ça? Donc voilà la conservation de la masse pour le panache. Conservation de la quantité de mouvement, c'est la deuxième quantité qu'on a vue. Alors, qu'est-ce que c'est le flux de quantité de mouvement? Une vitesse, c'est ce qui transporte. Mais qu'est-ce qui est transporté cette fois? C'est pas simplement la masse rho, c'est la quantité de mouvement, Lv, ici, rho W, hein, une fois de plus, on regarde la quantité de mouvement par unité de volume. Donc, vous transportez avec une vitesse W, donc mouvement rho W, et vous la transportez à travers la surface pi r. Donc, ça, c'est la quantité de mouvement. Qu'est-ce qui fait varier la quantité de mouvement d'un système? C'est les forces qui sont s'exercent sur le système. Vous avez deux forces, comme d'habitude. Le poids vers le bas et vers le haut, qu'est-ce que vous avez? La poussée d'Archimède, c'est-à-dire la pression qu'exerce l'air ambiant de l'atmosphère sur votre planète. Donc, vous obtenez que la variation de la quantité de mouvement dans le panache, c'est quoi? C'est donc qui s'exerce sur sa surface pi r carré. Rho A moins rho G, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre poussée d'Archimède moins poids. Qu'est-ce que c'est que cette force-là? C'est ce qu'on a appelé la flottabilité une fois de plus. D'accord? Donc si la flottabilité est positive, qu'est-ce que fait le panache? Il a une quantité de mouvement qui augmente. Si la flottabilité est négative, qu'est-ce que fait le panache? La quantité de mouvement diminue. Ce qu'il faut pour qu'un panache s'effondre, c'est simplement cette quantité de mouvement. Que cette flottabilité soit négative, puisque ça va faire diminuer la quantité de mouvement jusqu'à ce qu'elle tombe à zéro et que le panache s'effondre. Donc, cette équation de quantité de mouvement, elle est clé parce que c'est elle qui vous dit comment va évoluer la vitesse du panache. Est-ce qu'il va accélérer par flottabilité positive parce qu'il a beaucoup d'air chaud qui a été entraîné, ou est-ce qu'au contraire, il va décélérer par flottabilité négative parce qu'il est plus dense que l'air ambiant? Connaître comment évolue la quantité de mouvement, c'est connaître la flottabilité. Connaître la flottabilité, c'est connaître quoi? La densité de l'air ambiant, pas de problème, on a un modèle atmosphérique. Mais qu'est-ce qu'il vous faut ici? Il vous faut connaître la densité du panache. Quel est le paramètre physique qui va contrôler la masse volumique du panache? Vous avez un gaz, qu'est-ce qui contrôle la densité des gaz? Température. Donc j'ai besoin d'une autre équation de conservation, qui va être l'équation de conservation. Alors, est-ce qu'on conserve la température? Non, on conserve l'énergie thermique, l'enthalpie. Donc, conservation de l'enthalpie. Alors, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Je transporte avec une vitesse W une quantité. Quelle est cette quantité? C'est plus une masse, c'est plus une quantité de mouvement. Qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. Rho, Cp, delta T. Donc, ça, c'est l'énergie dans le panache par rapport à l'atmosphère. Qu'est-ce qui fait varier cette quantité d'énergie? Bah, c'est le fait que rajouter à chaque fois de l'air qui est de l'air froid. Donc, le simple bilan d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie varie en fonction de Z, tel que vous entraînez avec un taux lambda ou V, le long du périmètre du panache de l'air qui a une énergie, rho A, Cp, Tr. Donc ici, vous avez un phénomène de dilution. Vous rajoutez de l'air froid, permanence, lambda. Alors, ça bien sûr, c'est des équations de premier ordre, il faut aussi prendre en compte le travail, les forces de pression, etc. Mais vous avez ici 90% de la physique, hein, c'est simplement une équation de mélange. D'accord ? Vous mélangez l'air chaud du panache avec de l'air froid en pile. Alors, ça c'est bien, ça va me donner l'évolution de la température, mais ça ne me donne pas forcément l'évolution de la densité. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut ce qu'on appelle une équation d'état, qui va faire le lien entre la densité et la température. Donc, c'est le quatrième système. Je vais rajouter une équation d'état qui va relier la densité du panache à la dilatation thermique. Alpha ici, c'est le coefficient de dilatation thermique. Donc, en utilisant cette équation d'état, je vais pouvoir remplacer cette conservation d'énergie par une conservation de ce qu'on appelle la flottabilité, c'est-à-dire l'anomalie. Tout à l'heure, j'avais T moins TA, d'accord, c'était l'équation d'énergie. Ici, au lieu de regarder T moins TA, je regarde directement Rho moins Rho à travers l'équation d'état. Et puis, je multiplie par G, parce qu'ici, qu'est-ce que c'est? Rho moins Rho fois G, c'est ce que j'ai appelé là. Je vais réutiliser la différence entre la poussée d'Archimède et le Rho. Alors, je vais noter G', ce qu'on appelle cette gravité réduite. D'accord, cette gravité réduite, elle nous donne l'effet net de la différence entre la gravité vraie et la poussée d'Archimède qui diminue en fait cette gravité. Quand vous êtes dans l'eau, vous êtes soumis à une gravité réduite puisque vous flottez grâce à. Donc en combinant l'équation d'état et l'équation de conservation d'énergie et en faisant une ou deux petites manipulations, vous obtenez une conservation de la flottabilité. Ce qui est très intéressant puisque c'est la flottabilité elle-même qui fait changer la quantité de mouvement dans le système. Et ce que vous voyez, c'est qu'on peut écrire ce changement de flottabilité en fonction donc, de la taille du panache, de la vitesse, et ici un paramètre n carré qui est g sur rho 0, densité de référence, des rois sur tf. Alors est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce paramètre n carré g sur rho 0, des rois sur des rois? À part chercheur de premier rang. Alors, ça c'est l'évolution de la densité de l'atmosphère en fonction de z. Quand vous avez un milieu stratifié avec une densité qui évolue, elle évolue sur une certaine fréquence, on appelle la fréquence Brun-Passaïa. Ça, N, c'est la fréquence de Brun-Passaïa, ça vous donne la certification de l'atmosphère. Donc si vous voulez travailler sur Mars, vous allez utiliser le N qui vous donne la certification de la densité de l'atmosphère martienne. Si vous voulez travailler sur les lunes, vous faites pareil, etc. Donc ce paramètre N, cette fréquence de Brun-Passaïa, ça vous donne la façon dont les atmosphères planétaires sont stratifiées. D'accord ? Muni de ces équations, je peux donc m'amuser à résoudre l'évolution du panache. Alors, voilà un premier type d'exemple. Je fais ce calcul pour un flux de masse donnée, je ne précise pas ici parce que c'est très général. J'ai une vitesse initiale dans mon panache. Alors, vous souvenez la vitesse du panache volcanique ? Elle est donnée par cette vitesse du son. Vous vous souvenez de ça, on a mis ça ensemble. Hein. À la sortie du conduit, j'ai une vitesse du son. Que fait la vitesse à la sortie du conduit? Je suis à la sortie du conduit, j'ai un mélange qui contient des fragments magnétiques. Ce mélange, il est plus lourd que l'air. Donc sa flottabilité, elle est comment? Elle est négative. Qu'est-ce que fait la vitesse du panache? Forcément, elle diminue. La quantité de mouvement diminue. Donc vous avez un système, ici, avec sa quantité de mouvement diminue. Elle diminue, elle diminue, la flottabilité reste toujours négative. Que se passe-t-il là? Je m'effondre. J'augmente un petit peu la vitesse, toujours la flottabilité reste négative. Voilà, continue. Je collapse. Maintenant, je prends une vitesse plus forte. Que se passe-t-il? J'ai une vitesse plus forte, mais je suis quand même plus dense que l'atmosphère. La flottabilité est négative, la vitesse du panache diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Que se passe-t-il ici? La vitesse augmente. Qu'est-ce qui s'est passé à cette interface? Pourquoi la vitesse augmente? Parce que la flottabilité est devenue positive. Pourquoi la flottabilité est devenue positive? Parce que j'ai entraîné assez d'air dans le panache, l'air a été chauffé et a permis d'alléger le mélange. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le contrôle de la vitesse initiale, parce que la vitesse initiale, vous vous souvenez, l'entraînement est donné par lambda pour la vitesse. Si la vitesse est plus forte, ça veut dire que l'entraînement est plus important, et que vous allez donc pouvoir inverser la totalité et former une colonne stable dans la motion. Donc ici, vous avez l'influence de la vitesse. Plus la vitesse est importante, plus il est facile de générer un panache stable. Voilà. Okay. Ça va ce diagramme hein, c'est la base de l'effet de la multiplication.
Tu as parlé d'entraînement turbulent.
Pardon?
As-tu parlé d'entraînement turbulent?
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'entraînement turbulent, moi je l'ai caractérisé ici par l'effet net de
l'apport de,
des tourbillons. Donc c'est vraiment le formalisme de Taylor. Je ne calcule pas du tout un système avec toutes les échelles de la turbulence. Je dis juste que l'effet net de la turbulence, c'est de produire un entraînement proportionnel à la vitesse verticale.
Comment tu prends en compte le milieu biphasique entre gaz et milieu solide dans ton panache?
Alors, qui peut répondre à cette question? Parce que Claude Jobard l'a dit, et Florent n'est pas là. Donc on dit que c'est un eustigas. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un gaz dont la densité dépend de la teneur en particules et il se comporte comme un gaz. Donc le couplage thermique est supposé parfait, le couplage mécanique est supposé parfait. Parce que c'est. On reste à la base ici. Bien sûr, après, si tu prends des modèles plus complexes, tu vas prendre en compte les équilibres thermiques et les équilibres mécaniques. Là, ça va dépendre de la taille des particules. Donc le premier effet, c'est un effet donc, de mélange. Plus la vitesse est importante dans l'écoulement, plus vous allez mélanger efficacement l'air, et plus facilement vous allez changer le signe de la totalité. Mais attention, cette vitesse dépend du flux de masse. Alors vous avez ici la vitesse initiale pour laquelle j'inverse la totalité, c'est-à-dire la vitesse qui me permet de générer un panache. Et vous avez trois courbes en fonction de la température de la lave. Là, des choses qui sont plutôt de proches de basalte, ici, des choses qui sont proches plutôt de l'hydrolyse. Et là, vous avez le domaine de collapse et le domaine des panaches. Alors, je regarde par exemple un flux de masse de 1807 kg par seconde. Que se passe-t-il? La vitesse au début est faible. Alors, je prends une vitesse de 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde, 1807 kg. Je fais collapse. Si maintenant j'ai un magma de 800 degrés et que je prends une vitesse de 60 mètres par seconde, 10 puissance 7, cette fois je suis en panache. Donc, si je me déplace sur cette ligne verticale, en fonction de la température du magma, je vais générer un panache avec une vitesse ici à 30, 50 ou 100 mètres par seconde. Est-ce que vous comprenez effectivement pourquoi la température joue un rôle dans cette transition? Plus la température du magma est élevée, plus vous allez chauffer efficacement l'air rentré ici. Donc plus ça va être facile de faire la vitesse. Donc, première évolution, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut une vitesse minimale pour être dans un système bruyant, avec totalité positive. Mais ce que vous voyez, c'est que si j'ai ici, par exemple, un flux de 10 puissance 6 par seconde, avec une vitesse de 50 mètres par seconde, je suis dans un panache stable, à 800 Kelvin. Et si je déplace en augmentant le flux, que se passe-t-il au bout d'un moment? Ici, par exemple, quand j'arrive à 2 puissance 7, à 800 Kelvin, donc là j'étais dans un panache, je suis dans un panache. Et quand j'ai passé le flux à 2 puissance 7 kg/s, que se passe-t-il? Je suis dans le collapse et tout c'est bon. Donc j'ai une deuxième façon de gérer le collapse, soit par les vitesses, soit par les augmentations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est un phénomène de mélange, c'est simple. Plus vous avez une quantité importante de cendre qui est injectée par l'unité de temps dans le système, plus il faudra ingérer de l'air pour alléger le système. Donc, une autre façon de voir, c'est ce que vous avez dit, Claude, plus le flux de masse est important, plus la taille du panache est importante, donc plus il va vous falloir ingérer l'air pour alléger l'ensemble de l'air. Donc voilà les deux paramètres, la vitesse initiale et le flux de masse sont les deux paramètres qui contrôlent la dynamique de l'écoulement. Alors, maintenant qu'on a ces résultats, on peut comparer ça avec les données de terrain. Ici, vous avez deux choses. Donc, le flux de masse, premier paramètre qui contrôle la dynamique. Et puis ici, la teneur en gaz. Alors, pourquoi j'ai mis la teneur en gaz et pas la vitesse sur la fluide ? Alors, la teneur en gaz ou la vitesse, c'est la même chose, vous vous souvenez, parce qu'on sort à la vitesse du son. Alors, ici vous avez plein d'éruptions, par exemple les lance-flé grains, donc par les clones, on n'était pas là pour mesurer la vitesse de l'écoulement au lance-flé grains. Par contre, on peut aller chercher des échantillons sur le terrain. Et on peut mesurer ce qu'on appelle des inclusions fluides dans lesquelles on peut mesurer la quantité d'eau qui est dans le système. Donc cette mesure de teneur en gaz, c'est une mesure qu'on peut obtenir géologiquement. Et après, on peut transporter en vitesse. Ici, vous auriez une teneur en gaz de la vitesse, c'est pareil. Ici, tout ce qui est blanc, ce sont des panaches stables. Alors par exemple, on a parlé du Pilatro, on a parlé de Santorin. Alors ça, c'est pas la montagne Pelée 1902, hein, c'est la montagne Pelée lors d'une éruption précédente dans les années 1400. Et en noir, vous avez les éruptions qui se sont effondrées. Donc qu'est-ce que vous souhaiteriez que votre modèle vous prédise? Vous souhaiteriez que le modèle prédise une transition dans cette zone-là. Or, ce produit modèle, c'est ce type de transition. Alors je vous ai dit, alpha vaut à peu près 0,1. En fait, ça vaut entre 0,16 et 0,07 en fonction des modèles et des observations qu'on utilise. Donc ça, c'est la gamme de variation de alpha qui est donnée par les études physiques. Vous voyez que quelle que soit la gamme de alpha qui est considérée, on n'explique jamais la transition mesurée sur le temps. Ça veut dire que les modèles physiques de premier ordre ne sont pas capables d'expliquer les données géologiques, ça veut dire qu'il manque un ingrédient physique pour que ces modèles soient bien adaptés. Hein, et ça veut dire que les modèles sont trop simplifiés, qu'il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut manquer? Alors, on a fait des études au laboratoire sur ces phénomènes-là, et on a développé une petite théorie qui nous dit qu'en fait, la constante d'entraînement, lambda, c'est la constante qui est donnée d'habitude par les modèles physiques, hein, qui vaut à peu près 0,1, mais que cette constante, elle n'est pas une vraie constante. Et qu'elle dépend, vous voyez ici, R2G' sur W1. Je ne vous ai pas mis la théorie, c'était inutile, mais vous voyez G', vous vous souvenez ce que c'est G'? C'est la gravité réduite. Ça veut dire que si vous avez un système qui est plus léger que son environnement, il va entraîner très efficacement. Alors que si G' est négatif, c'est-à-dire si le système est plus lourd que son environnement, il va entraîner moins bien. Alors, on peut expliquer ça avec les mains.
Je vais poser ça. Vous imaginez que vous avez votre panache volcanique comme ça. Et vous avez des tourbillons qui tournent dans ce sens. D'accord? Parce qu'ici, vous avez une vitesse très rapide, qui est celle de l'axe du panache, et puis à côté, vous avez le milieu ambiant. Donc, vous avez un gradient de vitesse, et ça vous permet de faire tourner les tourbillons. Mais si maintenant vous imaginez un panache qui a une flottabilité négative, qu'est-ce qu'il fait ce panache? Lors de sa remontée, il a tendance à décélérer. Donc décélérer, ça fait une espèce de mouvement qui est dans ce sens-là. D'accord? Puisqu'il décélère, ça fait un frein dans ce sens-là. Donc vous avez des tourbillons qui cherchent à tourner comme ceci, et vous avez un système qui freine comme cela. Donc vous avez une contradiction entre le ralentissement du panache qui fait une espèce d'inertie vers le bas, et puis les tourbillons qui, au contraire, une inertie qui est dirigée vers le haut comme l'accélération. Donc ces deux phénomènes-là, grosso modo avec les mains, ça permet d'expliquer pourquoi ici, lorsque G' est négatif, le système ralentit. Donc ça, c'est une prédiction théorique, purement théorique, basée sur des modèles de second ordre de la turbulence. Je dois tester ce modèle-là en laboratoire avant d'appliquer sur les volcans, et je dois notamment aller chercher ce que c'est ce paramètre B que j'ai introduit ici, qui est une constante. Alors pour ça, on a fait des expériences de laboratoire où on a utilisé quelque chose qui se comporte un petit peu comme le flux volcanique. Le flux volcanique, qui est donc ce mélange de gaz et de poussière volcanique, ce qui nous intéresse, c'est qu'il peut changer de flottabilité. Il peut être plus lourd que l'air, plus léger que l'air. Donc on a utilisé un labo, un mélange d'éthylène et d'éthylène glycol, qui lorsqu'il est mélangé à l'eau,
a la capacité d'être plus lourd que l'eau, enfin plus léger que l'eau, ou plus lourd. C'est un système qui a une densité qui peut être supérieure à 1 ou inférieure à 1. Donc en fonction de la quantité d'eau que vous allez mettre dans votre système, et qui va être entraînée par la turbulence, vous allez pouvoir avoir un panache qui est plus lourd que l'eau, plus léger que l'eau, c'est-à-dire qu'il va vous générer un jet avec une ombrelle, ou au contraire, il va s'effondrer sur son propre. Donc vous avez ce qu'on appelle ici un fluide analogue. Simplement, comme il est plus léger que l'eau, lorsqu'on le mélange, on fait une manip vers le bas. Donc on a fait ce type de manip là. Vous avez un fluide sous pression, vous l'injectez, ça fait un jet turbulent, et on va regarder dans quelles conditions le jet est stable et dans quelles conditions il s'effondre. Alors, voilà le résultat de quelques manips. Alors, je les ai mises dans le bon sens pour vous. Ici, vous voyez que j'ai un jet qui est très rapide, la vitesse d'entraînement est très forte. J'entraîne de l'eau, le système prend une flottabilité positive et va former une ombrelle qui... Ici, j'ai diminué la vitesse d'entraînement. J'ai diminué la vitesse initiale, pardon, donc j'ai diminué la vitesse d'entraînement. Vous voyez que la turbulence est beaucoup moins basse. Le système arrive quand même à prendre une flottabilité positive, mais vous voyez qu'il y a des petits bouts de parcelles de fluide qui sont mal mélangés, qui restent plus lourds que l'ambiant et qui vont tomber vers le haut. Dernière manip. J'ai encore diminué la vitesse, l'entraînement n'est pas suffisant, le système va tomber sous l'effet de son propre poids, la flottabilité reste négative, donc l'entraînement turbulent n'est pas suffisant pour générer un panache stable. D'accord ? Donc ce qu'on a illustré dans ces manips, c'est l'influence de la vitesse initiale. Si la vitesse initiale est trop basse, le système collapse. Ce qui va m'intéresser maintenant, je les recommence franchement. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de comparer la vitesse critique à laquelle se produit le collapse par rapport aux prédictions qu'on donnait. Alors, c'est ce qu'on a là. Voilà ici donc le système. Fonction de la flux, en fonction du rayon, donc c'est une représentation proche de ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, vous avez la colonne qui collapse. Ici, vous avez le jet stable. Tout ce qui est blanc, ce sont les plumes. Tout ce qui est noir, ce sont les fontaines. Ici, alpha égale 0,1, c'est l'ancien type de modèle sans le raffinement lié à la flottabilité. Et ici, vous avez le nouveau modèle avec le raffinement lié à la flottabilité. Donc vous voyez que l'ancien modèle n'est pas effectivement capable d'expliquer le collapse, mais que le nouveau modèle fonctionne très bien. Donc maintenant que j'ai ce petit modèle qui est validé en laboratoire, que j'ai obtenu les paramètres de la loi en laboratoire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner sur les données de terrain volcanologiques. Et voilà ce que j'obtiens. On a un nouveau, une nouvelle frontière. Cette fois, la constante d'entraînement est fonction de la flottabilité, quelque part. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a cette fois un accord excellent au niveau des barrières en fret. Donc, c'est quand même pas facile de les récupérer exactement les flux de masse dans ces éruptions-là. Et donc, vous voyez qu'on a un bon accord. Donc, on a utilisé une théorie de deuxième ordre qui permet d'expliquer. Alors ça, c'est souvent le cas en volcanologie physique, c'est-à-dire que, bien sûr, on utilise des modèles physiques standards, mais comme on a des écoulements géophysiques de grande dimension, parfois, des ingrédients qui peuvent paraître de second ordre vont avoir des conséquences importantes. Quand vous avez des flux de masse qui sont de 10 milliards de kilogrammes par seconde, et bien, une erreur sur les constantes d'entraînement, ça peut faire totalement... ça peut faire une grosse erreur sur vos modèles prédictifs. Hein. Donc on a besoin d'une physique souvent très précise par rapport à nos outils. Donc vous voyez ici, ça marche plutôt bien, on a capturé la physique qui permet d'expliquer l'effondrement des panaches volcaniques. Hein. Le modèle théorique validé en laboratoire a un pouvoir prédictif qui est tout à fait satisfaisant. Ok ? Ça va ça ? Deuxième partie, on va regarder maintenant, dans le cas où j'ai un panache stable, c'est-à-dire que je suis dans cette zone-là, j'ai une grande teneur en gaz, c'est-à-dire j'ai une grande vitesse d'éjection, ou j'ai un flux de masse qui n'est pas trop fort, et j'ai donc généré une colonne qui est stable. Alors ici, qu'est-ce qui lui arrive à cette colonne stable? Elle a été chassée par les vents de haute altitude, et puis donc vous avez une pluie de cendres et de bronze qui couvre les environnements. Donc c'est la première phase de Pompéi dont Claude vous a parlé. Les 2 mètres de bronze, et bien, ils sont tombés, les panaches. Cette façon. Donc comment est-ce que je peux calculer la hauteur atteinte par ce panache?
Alors, je peux faire des modèles numériques. Alors ici, je vais vous montrer la modélisation numérique qui est faite par des collègues japonais qui ont eu la gentillesse de nous prêter leur système. Vous voyez, l'échelle, c'est 0 à 50 km. Donc ça, c'est les modèles du type de ce qu'on parlait tout à l'heure Alexandre. Des modèles où je vais faire un calcul de la turbulence jusqu'à une échelle de type la centaine de mètres. Et puis pour tout ce qui est en dessous de 100 mètres, je mets une équation de fermeture qui permet de décrire les processus de souffrir. Et donc voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, j'ai éjecté de l'air et puis ici le panache s'étale. Donc vous avez le haut là qui bouillonne un petit peu, c'est une espèce de fontaine. Alors est-ce qu'on comprend les trois étages de tout ça? Ici vous avez un panache qui sort. Ce panache il est plus dense que l'atmosphère. Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait s'effondrer. Pourquoi ne s'est-il pas effondré? Parce qu'il a ingéré assez d'air pour devenir plus léger que l'atmosphère. Il remonte, et puis il arrive ici à un niveau où il s'étale. Pourquoi est-ce qu'il s'étale ici le panache? Non. Alors, voilà, il ne remonte pas dans une atmosphère uniforme. Il remonte dans une atmosphère qui est stratifiée, qui devient de moins en moins dense. Donc, l'environnement est de moins en moins dense. Donc, la flottabilité dans votre système, elle diminue parce que l'environnement est de moins en moins dense. Vous arrivez à un niveau, ici, où par définition, la flottabilité est égale à 0. Le panache, qui s'était allégé parce qu'il avait ingéré de l'air et qu'il a chauffé, atteint la même densité que l'atmosphère raréfiée autour de lui. Et donc, il s'étale. Pourquoi est-ce qu'il dépasse un petit peu ici? C'est parce que lorsqu'il arrive au niveau de flottabilité nulle, il n'a pas une vitesse nulle, donc il y a un petit overshot, et puis ça fait une petite fontaine qui roule. Donc voilà ce type de modèle numérique. C'est des modèles qui sont faits sur des supercalculateurs, peut-être pas aussi puissants que ceux de Sacha, mais assez proche, c'est des calculs qui prennent plusieurs semaines, c'est des calculs qui permettent par exemple de s'intéresser, si vous voulez vous intéresser au Pinatubo, donc vous pouvez prendre les paramètres du Pinatubo et essayer de modéliser au mieux le Pinatubo, et c'est très difficile de faire une étude systématique avec ces calculs-là, parce qu'ils sont trop coûteux en temps, et puis parfois, on a des résultats numériques qui ne sont pas forcément aisés à interpréter, parce que vous avez une quantité de données qui est énorme. Il y a beaucoup de paramètres physiques qui rentrent en compte. Ici, vous avez la température, vous avez l'humidité de l'atmosphère, bien sûr, la modélisation de l'entraînement qui se fait à certaines échelles et à pas d'autres. Vous avez les problèmes donc, d'incertitude dont parlait Alex. Donc, on a besoin parfois d'avoir des béquilles physiques de premier ordre pour bien comprendre ces types d'études et pouvoir comprendre la systématique des comportements. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble, comme dernière étape du cours. On va essayer de faire une analyse d'échelle, on va essayer de comprendre, là, entre nous, en 5 minutes, ce qui contrôle la hauteur de remontée d'un panache. On va essayer de proposer une loi théorique, sans ordinateur, juste avec le normal. Alors, c'est ce qu'on appelle l'analyse d'échelle. L'analyse d'échelle, on en a déjà parlé un petit peu dans les cours précédents, on a parlé des grands équilibres entre flottabilité, résistance des roches à la déformation, élasticité, pression. À chaque fois, on vous a parler d'échelle, échelle de longueur, échelle de pression, etc. Donc, pour faire une analyse d'échelle, on va essayer d'identifier les paramètres clés. Alors, d'abord, on va identifier, on va même pas le marquer sur le tableau, le paramètre que l'on cherche à modéliser. Quel est le paramètre qui nous intéresse? C'est la hauteur du panache, d'accord? Donc, grand H. On va exprimer cette hauteur du panache grand H en fonction des paramètres clés du système. Alors, à votre avis, quels sont les paramètres clés du système? Un système physique, c'est quoi? C'est une condition à la source dans un environnement donné. Donc il faut qu'on essaie de trouver, de deviner ensemble, quels sont les paramètres clés pour le panache à la source et puis pour l'environnement. Alors peut-être qu'on peut commencer par l'environnement. Quels sont les paramètres clés qui jouent un rôle dans l'environnement? Voilà. Hein, on a dit tout à l'heure que si le panache s'étalait, c'est parce qu'il remontait dans une atmosphère raréfiée. Donc le paramètre qui va caractériser la stratification de l'atmosphère, on a dit que c'était grand N, la fréquence de brutes bassines. Donc pour l'atmosphère, on va choisir grand N. Pour le panache à la source, qu'est-ce que l'on va choisir pour le paramètre? Qu'est-ce que vous allez en choisir?
Pardon ?
Alors, donc
on fait un raisonnement physique de ce type-là. Donc, effectivement, ce qui va jouer un rôle, c'est la quantité d'air que je peux ingérer ici. Donc, il faut que je comprenne quel est le paramètre à la source qui va contrôler cette quantité d'air que je vais ingérer. Alors, vous dites la vitesse. Et quand on a écrit nos équations de conservation,
ça dépend de la quantité de gaz.
Oui. Mais est-ce qu'on a écrit dans nos équations la conservation de la vitesse? On a écrit la conservation de flux de masse, la conservation de la quantité de mouvement, la conservation d'énergie. Donc, vous êtes en train de construire un raisonnement ici par escalier en disant bon, ce qui compte, c'est la quantité de gaz que j'ai ingéré. Cette quantité de gaz, elle dépend de la vitesse. La vitesse, elle dépend de quoi? De l'évolution des flux. Quel est le flux qui capture l'évolution de la vitesse? Celui... Pardon? Alors, le flux qui correspond à l'évolution de la vitesse, c'est ce qu'on a appelé la quantité de mouvement. Et par quoi est contrôlée la quantité de mouvement? Par la flottabilité. Donc le choix qu'on va faire, c'est effectivement celui-ci, c'est de dire... À la source, ce qui m'intéresse, c'est la flottabilité. D'accord? Cette flottabilité, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est le flux de masse fois delta V, alpha delta V. D'accord? Parce que c'est la quantité de chaleur, finalement, qui est disponible pour chauffer la roue. Quand vous avez la flottabilité à la source, ça vous donne à la fois la quantité de mouvement qui va pouvoir mélanger tout ça, et ça vous donne le réservoir thermique. Donc, avec F0, défini comme la flottabilité à la source, le flux d'enthalpie à la source, c'est le moteur. Donc ça, c'est la source, ça, c'est la source. Comment maintenant je vais pouvoir chercher une voie d'échelle? Eh bien, j'utilise une relation très simple en physique, qui est la relation des puissances. Je propose que la hauteur h, du panache, est une fonction de la flottabilité et de la fréquence de bruit de passage A, à une puissance A et une puissance B. Quand vous écrivez, par exemple, la loi de Newton, somme des forces égale à 1, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que la force est égale à une masse à la puissance 1 fois une accélération à la puissance 1. Ça revient à dire que la force est égale à une masse à la puissance 1 fois un temps à la puissance moins 2 fois une distance à la puissance 1. Donc, en physique, vous avez ces grandes relations les calculs, etc., qui peuvent s'exprimer sous la forme de loi de puissance. Donc vous proposez cette loi de puissance, et bien ensuite vous allez vérifier l'homogénéité de cette loi. H, c'est une dimension, c'est une longueur, c'est une dimension de mètre. Donc ce produit-là, F0 à la puissance A fois N à la puissance B, ça a forcément une dimension de longueur. Où est-ce que je peux aller chercher les longueurs ici? F0. F0 est à quelle puissance?
La puissance
1 quart. F0 est la puissance 1 quart. Mais si je mets F0 à la puissance 1 quart, qu'est-ce que j'ai introduit comme dimension des secondes à la puissance moins 3 quarts? Il faut que je m'en débarrasse. Donc je vais multiplier par N à la puissance
moins 3 quarts.
Moins 3 quarts. Moins 3 quarts moins 3 quarts, ça fait moins 3 quarts plus 3 quarts, c'est-à-dire 0. Donc, vous voyez, là, en 30 secondes, avec des gens qui ont suivi déjà deux cours sur les antiparticules et sur les simulations de données, vous êtes capable quand même de prouver que A égale 1 quart et B égale moins 3 quarts. Donc, on a la théorie qui est une loi d'échelle. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a cette loi d'échelle? On peut la tester. Voilà le test de cette loi d'échelle. Alors, vous voyez, c'est un test d'état de 1969. C'est des pieds et des pouces. Vous avez ici la hauteur de panache en fonction de cette loi d'échelle. Avec des panaches de labo, hein, à l'échelle du centimètre, ça c'est en labo, des manips un peu plus importantes à l'échelle du mètre. Ici, des feux de forêt à l'échelle de la centaine de mètres. Et ici, des feux de source de pétrole, si je me souviens bien, qui sont plutôt à l'échelle du kilomètre. Ça, c'est la hauteur mesurée. Ça, c'est votre loi d'échelle multipliée par 5. Parce que souvent, il y a des constantes sans dimension qui ne sont pas captées par la loi d'échelle. Donc la loi d'échelle est donnée à une constante près. Alors, qu'est-ce que vous pensez de pouvoir planifier votre loi d'échelle?
Elle est pas mal.
Est-ce que c'est la peine d'aller au Japon?
Est-ce que le
Vous noterez qu'il y a un petit peu de scepticisme de la part de nos collègues, mais on va voir.
Alors, est-ce que je peux faire ça directement pour les volcans? Alors, pour les volcans, ça m'intéresse beaucoup.
Parce que, quel est le paramètre clé pour la stabilité d'un panache? Tout à l'heure, on a dit que c'était le flux de masse. Ici, ça, c'est la hauteur. Si vous connaissez la hauteur et que vous connaissez votre atmosphère terrestre, elle est assez connue, votre atmosphère terrestre, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Le flux de flottabilité. Le flux de flottabilité, on a dit, c'est grosso modo le flux de masse fois la température. Donc si vous connaissez H à la puissance 4, vous pouvez obtenir ici le flux de masse. Donc cette relation-là, elle est extrêmement utile pour les volcanologues, parce qu'elle leur permet, en regardant de loin la hauteur du panache, d'en déduire quoi? Le flux de masse qui nourrit la colonne, et de savoir si vous êtes prêt ou pas de la transition qui est un découpement pyroclastique. Donc de passer un coup de fil à votre grand-mère, vous dire, il faut que tu te déménages parce que...
Ça devient dans le sérieux. Alors bon, on ne peut pas utiliser tout de suite ça pour les volcans, parce que pour les volcans, il y a un petit quelque chose qu'il faut rajouter, c'est quand même l'effet du vent.
Hein, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez ici un puits volcanique qui est poussé par le vent, et peut-être de façon intuitive, vous allez bien sentir que ici, le vent, là, il va augmenter la quantité d'air qui est éventuellement ingérée par le panache. Vous avez une espèce d'agression de l'air ambiant par ça. Alors, ce n'est pas des choses très compliquées à faire, mais ce n'est pas très simple non plus. Alors, on fait des petites manies de labo, toujours chez nous, là. Là, vous avez trois panaches, et ce qu'on a changé, c'est le rapport sans dimension entre la vitesse d'injection et la vitesse du vent. Vous voyez, on travaille toujours avec ces nombres sans dimension, ces échelles. J'ai deux échelles, j'ai la vitesse du son, et j'ai la vitesse du vent. Et vous voyez ici, vous avez un panache. Alors, à votre avis, ce panache-là, il est très influencé par le vent. Donc, en fait, vous voyez, ok, son ombrelle, elle est déformée, mais sa hauteur, elle n'est pas influencée par le vent. Alors, ce panache-là, il aurait bien aimé monter jusqu'à cette hauteur, mais il n'a pas pu parce qu'il a été influencé par le vent. Le taux d'entraînement a été différent. Donc, on peut faire une petite théorie pour ce type d'entraînement, on peut tester tout ça. Donc, il y a une loi pour les volcans. Et voilà donc la prédiction finale du système. Vous avez ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 éruptions. Et ça, c'est important. 8 éruptions seulement. Ce sont les 8 éruptions et les seules que l'on peut utiliser où on connaît à la fois le vent dans l'atmosphère, les conditions à la source du panache, une basse vitesse, la teneur en gaz, la distribution de taille des fragments, parce que par rapport à ce que disait Florent tout à l'heure, ici c'est un modèle complet où on prend en compte les sédimentations des ponts, etc. C'est des modèles importants, il y a beaucoup de paramètres. Et vous voyez que les données sont très rares. On a plus d'éruptions à se mettre sous la main. Quand je regarde la prédiction du modèle précédent, celui que j'avais validé avec la bonne échelle avec vous, vous voyez qu'il y avait un offset systématique, c'est-à-dire que les volcans étaient en dessous de la prédiction théorique. Pourquoi les volcans étaient-ils en dessous de la prédiction théorique? C'est parce qu'en général, dans l'atmosphère, il y a du vent. Et comme on l'a vu juste précédemment, le vent diminue la hauteur atteinte par les panaches. Et ici, vous avez le modèle complet qui prend en compte l'entraînement variable en fonction de la flottabilité, la vitesse du vent. Et vous voyez qu'au bar des retraits, vous avez une prédiction parfaite sur effectivement 3 heures de grandeur, de 1805 à 1808 kg par seconde, donc de 200 000 à 100 millions de kg par seconde. Vous avez un flux de masse prédit en fonction de la hauteur du panache qui correspond très bien au flux de masse mesuré sur le temps. Donc ça montre que les modèles que je vous ai montrés sont des modèles à une dimension assez simple. On a un pouvoir prédictif qui est extrêmement satisfaisant, donc ça veut bien dire qu'on a capturer la physique du son. D'accord.
Donc voilà, c'est la fin. Terminé par le... Oui.
Ça veut dire que tu as un gène récessif et puis un gène dominant. Et à la fin, tu as 50% qui est réel machin, 25-25. Le modèle de premier ordre. Et ensuite, si tu regardes au deuxième ordre, les recombinaisons, machin qui peuvent arriver, tu vas avoir un système où c'est pas 50% qui va être l'allèle dominant, mais seulement 49%, parce que le reste, c'est des recombinaisons. Donc ça, c'est du deuxième ordre. Oui, tu rajoutes un ingrédient, donc quelque part, tu as un modèle qui va expliquer 90% des données, avec deux ingrédients physiques. Ça, c'est un modèle de premier. Et puis, ce qui t'intéresse, c'est de passer de 90 à 95. Tu vas rajouter un phénomène et un science. Après, je pense qu'en fonction des disciplines, il peut y avoir des définitions très précises de ce que c'est que l'ordre d'un modèle. En ce cas-là, peut-être, présentera des modèles où l'ordre, ça veut dire quelque chose aussi. Ou Sacha, je ne sais pas.
Non, mais comme on disait, le développement des ordres, je comprends bien ce que c'est. Tu peux aller au premier ordre, au deuxième ordre, quand tu fais l'approximation, la quantité.
Les développements limités, ça vous dit.
Les développements limités,
ça vous dit quelque chose, hein. C'est le premier ordre de l'ordre. Autre question ? On laisse la parole à vous pour 5 ans. You've got winds for all these eruptions.
Yeah,
and these are the only ones which you are able to measure the wind at the time of the eruption.
But and you are putting the measurements in both
Yes.
No wind and wind.
Yeah. Basically, the measurement is always the same, the mass flux. And we compare the measured mass flux with the theoretical mass flux. And we need to take into account wind for a very good measure.
2016.
Oui, parce que le papier est accepté.
Le papier est accepté, donc il sera publié, ce sera 2016.
Ouais, j'attendais cette question. On est tard, hein, oui.